Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Malifance. Bonjour.
Bonjour.
Alors Malifance, nous sommes tous deux devant le troupeau où vous exposez actuellement.
Où j'expose en ce moment? Alors, dans mon atelier, déjà, donc je suis sur l'écosite d'Eure. Donc, c'est une zone artisanale face à la... Ce sont des maisons-ateliers qui sont face à la gare à coulisses, la compagnie du Trans-Express. Donc, déjà là, j'y suis tout l'été, donc sur rendez-vous. Et puis, c'est un atelier qui s'appelle Atelier Ici la Terre. Et puis sur le marché de Cray aussi, tous les samedis matins. Et puis après dans des lieux un peu plus loin que le Diwa, dans les boutiques talents des ateliers d'art de France à Étoile, à Paris. Et puis à New York, sur Broadway. Et pour les cailloux avec les petites cuillères, les cailloux contenants et les assiettes feuilles. Et puis après, on ne va pas dire que j'expose vraiment, on va dire que les gens consomment dans mes plats puisque je travaille aussi pour les restaurants, donc hôtels de luxe qui ont des restaurants et puis restaurants essentiellement sur Paris. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces petits personnages, cailloux?
Alors, c'est plusieurs choses. Déjà, je travaillais autour des cailloux il y a 6 ans. C'était des cailloux qui étaient, que j'appelais moi, des cailloux à planter, qui n'avaient pas de jambes, qui avaient des petits visages, soit gravés donc dans le caillou même. Donc, c'est des cailloux en terre, que je reproduis en terre. Il n'y a pas du tout de cailloux, de matière cailloux. Ce sont essentiellement des pièces en grès. Donc le grès, pour différencier le grès de la faïence, c'est une terre qui cuit à plus haute température, comme la porcelaine. Donc ça peut aller jusqu'à 1300 degrés. Donc ça tient en extérieur aussi. Et puis, j'ai fait une pièce qui s'appelle la fillette aux fleurs, qu'on peut trouver sur mon site, dans la rubrique les filles. Donc il y a les gars, les filles. Cette fillette, en fait, marchait. Et je voulais mettre en mouvement en fait mes pièces qui étaient stables jusqu'à maintenant. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ces cailloux, je me suis dit tiens, j'aimerais bien les faire bouger aussi, les faire courir, voler. J'avais besoin de mouvement. Je sortais d'une formation en film d'animation. Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu motivée. Et comme je mettais déjà les poissons sur des tiges, je me suis dit, j'ai qu'à mettre les cailloux sur des tiges, vu qu'ils sont creux. Et puis c'est comme ça que c'est venu et ça m'a libérée. J'en ai fait qui dansaient, qui flottaient, qui nageaient. C'est comme ça que c'est venu. Après, m'est venue l'idée du caillou avec la petite tête à l'intérieur, les petites jambes, je vais vous dire que c'est complètement aléatoire. C'est juste, je vais vous dire une chose que je dis souvent, j'ai plusieurs petites bobines dans la tête et je tire les fils et ça vient tout seul. Voilà, c'est l'imaginaire qui est constant et présent dans ma vie de tous les jours, aussi bien en cuisine qu'en blague, en histoire, dans la chanson aussi, puisque j'écris des chansons. Donc j'ai jamais été... Je me suis jamais fermée à ce niveau-là.
Vous êtes dans le... Vous vivez où précisément? À Eure, je crois bien, là.
Oui.
Vous êtes dans un logement-atelier, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Sur l'écosystème.
Alors, ce sont les premiers construits il y a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on y est, 4 ans et demi. On est donc pour l'instant trois familles et puis il y en a d'autres qui sont en projet de construction et je crois avec déjà une liste d'attente donc auprès de la communauté de communes du Val de Drôme. Et donc moi je suis la première maison. Donc je partage avec mon compagnon qui est aussi créateur, donc qui est designer mobilier, essentiellement carton. Et architecte d'intérieur, voilà. Mais je suis originaire de la région parisienne, en fait. Moi, je suis venue dans la Drôme poursuivre cette formation en film d'animation organisée par l'équipé. Donc, c'était une formation de 6 mois, voilà, puisque j'ai travaillé avant dans le cinéma d'animation. Et là, je voulais pousser un petit peu plus loin les techniques. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la Drôme et que j'ai pas voulu la quitter.
Et là, pourrait-on dire votre rencontre avec les galets de la Drôme ?
Oui, tout à fait. Alors, comme tout le monde, je ne suis pas la seule à aimer les cailloux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi aussi, je fais collection », qui viennent m'en apporter à mon atelier. Même, il m'est arrivé d'en mouler, parce que je les moule. Quelques-uns d'amis qui venaient me les apporter et c'était un vrai partage de clients qui sont devenus amis. Et puis c'est une vraie force en fait de ces cailloux, parce que non seulement il y en a dans la Drôme, mais il y en a aussi sur les chantiers. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs à me dire tiens, et si je les prenais plutôt que d'attendre qu'ils soient concassés, parce qu'en fait sur un chantier, il faut savoir que quand on fait les fondations, on fait des gros trous, donc évidemment. Et puis après, il y a des espèces de machines. Enfin là, quand je suis arrivée dans la Drôme, j'étais à Bourg-lès-Valence, et il y avait ces grosses machines qui triaient les cailloux, donc qui les calibraient. Et je suis montée sur ces monticules de galets, de gros cailloux, et j'ai senti une force m'envahir. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec celui-ci et qu'est-ce que lui m'évoque, voilà, parce qu'il y a la forme, il y a la couleur, il y a la matière. Après je peux aller les chercher dans la rivière, je peux aussi j'en ai moulé un sur un rond-point parce que tellement il était gros que je pouvais pas le déplacer, donc je l'ai moulé sur un rond-point. Aujourd'hui je me suis un peu calmée parce qu'évidemment, ils sont très lourds, c'est des pièces qui sont assez imposantes. Et on va dire que je les peaufine et je les explore, je les exploite jusqu'à ce que j'en trouve une autre utilité. Puisque au début, ils étaient avec des visages et des jambes. Après, ils sont devenus contenants. Et puis maintenant, ils sont contenants, mais d'une autre façon, puisqu'ils ont... Ils peuvent être de formes très diverses, mais avec un intérieur aussi, très, très différent, puisqu'ils sont presque remplis et ils peuvent contenir une petite bouillabaisse ou une petite viande.
D'un objet artistique, vous avez amené un objet usuel.
C'est ça, je crois que ça doit être mon côté pratique de femme qui aime cuisiner aussi. Et j'ai évoqué un jour le fait de vouloir travailler avec les cuisiniers, puis c'est venu tout seul. Voilà, on dit qu'il faut appeler les choses et je crois beaucoup en ça. Je crois qu'il faut. Quand j'étais ado, on disait vis tes rêves, vis ta vie, je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et je continue à le faire et j'encourage les gens aujourd'hui à le faire aussi. Je crois que c'est une bonne façon optimiste de continuer à croire au bonheur.
Par les temps qui courent, c'est très dur. Hein.
C'est voilà, tout à fait. On peut être vite pris par la morosité et par l'espoir. J'ai une petite fille de 12 ans qui a du mal à comprendre un peu ce qui se passe autour de nous et c'est très difficile de lui expliquer aussi, de lui dire que l'homme peut être influençable, que l'homme peut être mauvais, mais que l'homme peut être gentil, que l'homme peut aussi se battre pour le bonheur. Voilà, c'est il faut toujours aller vers le positif.
Vos représentations de ces petits personnages, ce sont des individus ou alors vous avez aussi abordé le groupe ?
Alors, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de prénom. Il y a ceux qui flottent, il y a ceux qui courent, il y a donc les cailloux qui dansent. Depuis peu, je leur mets des petites jupettes. Donc j'ai trouvé une collaboratrice qui me fait ça au crochet. Et c'est génial parce qu'en fait, on s'amuse beaucoup à trouver des textures qui correspondent à chacune des pièces. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que je me sers de ces formes de cailloux aussi pour faire mes poissons. Donc les poissons, c'est aussi des pièces maîtresses en fait dans mon travail. Donc, c'est-à-dire quand je dis je me sers de ces formes, donc on est sur des pièces qui sont patinées d'une autre façon, puisque c'est une patine à la cire, alors que les poissons, les cailloux, c'est une patine à la chaux et pigments. Donc c'est une cire que je fabrique moi-même avec une cire d'abeille et puis des pigments. Les poissons sont plutôt rigolos, plutôt BD. Et les poissons et les cailloux sont plutôt sont dans un monde plutôt onirique je dirais presque fantastique. Voilà. Maintenant, je vais vous avouer une chose, c'est qu'en débarrassant la maison de mes parents qui sont morts il y a quelques années, j'ai retrouvé un vieux carrelage qui était dans la partie la plus chaude de la cave donc de mes parents, donc la maison familiale, parce que j'ai grandi en région parisienne.
C'est passé là-bas.
Donc sur ce carrelage, en fait, il y avait des cailloux et des poissons. Et j'avais oublié ce carrelage. Et je faisais déjà cette production de cailloux et de poissons et je vous avoue que j'ai un peu eu un vertige, c'est-à-dire que je me suis revue toute petite en train de jouer avec ces poissons et ces cailloux qui étaient très stylisés. Hein. C'était un carrelage presque moderne aujourd'hui. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, tu continues à jouer, à imaginer des histoires entre ces cailloux et ces poissons. Et j'ai poussé, on va dire, le bouchon un peu plus loin, puisque depuis, je fais des poissons avec des personnages dessus, des cailloux avec des poissons qui marchent sur les cailloux, des poissons avec des personnages à l'intérieur. Voilà, c'est une boucle sans fin, ça tourne et je m'amuse. Voilà, je m'amuse à me raconter des histoires.
Est-ce que vous vous êtes inspiré de mythologie, par exemple, pour composer ces personnages, ou alors d'histoires de contes ou de contes d'enfance ? On pourrait penser à Alice avec The Eggman, par exemple.
Alice, je l'ai découverte à 21 ans. Alors, Alice au Pays des Merveilles. Et comme beaucoup de films et de dessins animés que peuvent voir les enfants en bas âge, moi, j'aimais beaucoup... donc, on n'allait pas beaucoup au cinéma quand on était petit, mais par contre, il y avait la télé. Et il y avait ce générique de Folon. Et je pense que c'est plus ce générique-là qui m'a inspirée. Voilà. Y a des gens aussi qui me disent qu'il y a un univers très proche de Bosch, que je ne connais pas du tout. Moi, je pense que ce générique a beaucoup compté pour moi. Et puis cet univers de Chapi-Chapeau, qui a été très, très important avec... ces petits personnages qui grossissaient, qui grandissaient, qui s'amusaient avec des animaux, avec ces vitres qui descendaient, qui faisaient un monde merveilleux, qui brillait. Voilà, j'ai un monde de cubes comme ça. Alors, faut se replonger dans Chapi-Chapeau. Hein. Pour les gens, peuvent aller voir ça sur Internet. On peut retrouver ça très facilement. C'est plus cet univers-là qui m'a inspirée. Je viens de ça.
Un univers d'enfance, c'est vrai qu'on peut éprouver cette émotion quand on voit vos petits personnages. Ça peut expliquer aussi ce regain et ce succès auprès des galeries où vous êtes exposé.
Alors en fait, ce qui amuse beaucoup les gens, je pense, c'est justement que je m'amuse pour les poissons et que les gens ont besoin de rigoler, ont besoin de s'amuser, ont besoin de retrouver cette espèce de côté benêt. Vraiment, ces poissons, ils ont un regard idiot. Quand on parle des yeux de merlan frit, en fait, il faut savoir que un regard comme ça, ça vient en fait quand on est amoureux. L'amour aussi est important. L'amour dans le sens où quand on est adolescent et qu'on est prêt à tout, qu'on oublie l'heure, qu'on n'a pas besoin d'alcool ni de rien du tout pour être heureux. Juste s'embrasser et bon, un peu d'hormones évidemment qui montent en nous. J'aime assez cette liberté là de croire qu'il faut pas grand chose pour s'amuser, et l'amitié aussi peut être très importante, le rire. Donc voilà, c'est mes valeurs, on va dire. C'est mes valeurs. Après, je pense que tout le monde est comme ça. Et il suffit juste de se laisser aller et on glisse très vite vers la joie, parce que tout le monde l'a connu à un moment donné. Faut surtout se dire ça. Je pense que les rassemblements aujourd'hui, le recueillement et ce regroupement humain, il faut pas le voir que dans l'adversité, il faut le voir tous les jours. Voilà. Moi, je reviens d'une hospitalisation avec un centre de rééducation, un séjour en centre de rééducation, et avec beaucoup d'humour, des gens qui avaient beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de partage, malgré la douleur. Et l'être humain est fait de ça.
Vous parliez de fragilité du corps, par exemple. On peut l'identifier sur vos personnages qui ont un corps assez volumineux et en même temps des membres qui semblent très fragiles. Ils n'ont l'air d'être là et de tenir que par un miracle, presque. Quelle est cette démarche ?
Alors, mes parents sont morts, comme je vous l'ai dit. Tout d'un coup, ma maman en premier. C'est très personnel, mais je pense qu'on ne parle pas assez de la mort. Alors, évidemment, je ne parle pas des événements aujourd'hui. Hein. Je parle de la vie et de la mort, du cycle vers lequel tout le monde est face à ça. À partir du moment où on est confronté à la mort de la personne qui vous a mis au monde. C'est très difficile, évidemment, mais tout d'un coup, de se dire qu'on va avoir face à nous une pierre tombale, quelque chose de très froid, je pense que c'est ça qui a fait un choc en moi et qui a fait que ces cailloux sont devenus une force, que ce corps qui était devenu presque un petit peu dur parce que justement je ne pouvais plus toucher ma maman. Il y avait une relation physique qui pouvait plus s'exprimer. Ça a été un déclencheur aussi de quelque chose. Et cette fragilité, je pense qu'elle a toujours été en moi. Et cette légèreté aussi. Donc, c'est voilà, la princesse Caillou, c'est moi.
On peut dire aussi que ça touche beaucoup de monde, puisqu'il y a un intérêt d'un public pour votre travail.
C'est ça, je pense que les cailloux, pourquoi ça touche tout le monde? Je pense que tout le monde a, à un moment donné, a mis un petit caillou dans sa poche comme un trésor et comme quelque chose d'unique qui nous appartient rien qu'à nous et qui fait qu'on est tous uniques aussi, puisqu'on a un regard qui fait qu'on trouve son propre caillou, son petit coquillage aussi. Là, je travaille sur les coquillages aussi. C'est ce côté précieux qu'on a tous et voilà, je vais me répéter, mais qu'il faut cultiver entre amis, en amour, avec sa famille, ses enfants et tous les gens qui sont autour de nous. Voilà, c'est presque un message de bonheur.
Vous exposez donc à l'entrepôt à partir du 1er juillet, je crois, jusqu'au 15 septembre.
C'est ça, voilà, jusqu'au 15 septembre. François vous accueille pour vous expliquer un petit peu aussi ma démarche. Et puis, en vitrine, vous avez les petits poissons rouges et quelques cailloux. Et puis les cailloux contenants, les assiettes aussi, les assiettes feuilles. Et puis dans la cour, vous avez beaucoup plus de cailloux avec les jambes et un gros chat avec un petit œuf qui a une petite queue qui sont l'illustration en fait une illustration personnelle d'un livre de Luis Sepúlveda.
Vous parliez d'œuf, c'est un travail à venir, l'œuf?
Non, c'est un travail de longue haleine depuis, ça va faire 5 ans maintenant que je travaille dessus, puisque j'ai commencé en fait par être en admiration devant un œuf d'autruche, et puis après, comme beaucoup de gens, et puis après, en voulant mettre des œufs de côté pour mettre dans mes fraisiers, parce que j'avais lu que les coquilles d'œufs en fait étaient un répulsif contre les limaces, bon, ça marche pas vraiment. Je me suis dit tiens, je vais les faire sécher, parce que quand on casse une coquille d'œuf, ça se casse pas vraiment un œuf frais. Donc je les ai mis à sécher et je les ai mis à sécher donc cassés, évidemment. J'avais fait des crêpes et en fait en les observant en observant ces demi coquilles d'œuf sur mon radiateur, j'ai trouvé ça très beau. Et il se trouve que c'est des coquilles d'œufs d'un fermier qui est juste à côté de chez moi. Et je me suis dit, mais c'est magnifique en fait, un œuf. C'est pur et très blanc à l'intérieur, surtout l'hiver. Beaucoup moins l'été. L'été, l'œuf est beaucoup plus rosé à l'intérieur. Et puis la coquille est très, très solide en hiver aussi. Et très tachetée, enfin, matierée presque à l'extérieur, mat. Presque brillant, et à l'intérieur satiné et blanc. Donc je me suis amusée à essayer d'imiter la poule et d'en faire des contenants. Donc je voulais qu'on puisse boire dedans, qu'on puisse faire des œufs pochés, des omelettes au four, des flans, des glaces, voilà, des choses avec lesquelles on peut à base d'œufs. J'ai commencé par le gabarit, on va dire, de l'œuf d'autruche. Et puis j'en ai fait comme ça 5 exemplaires qui se mettent tous les uns dans les autres jusqu'à atteindre un modèle de saladier, en fait. Voilà, donc c'est des pièces que vous pouvez voir dans mon atelier et puis sur le marché de Cré en ce moment, voilà, tous les samedis matin. Mais c'est une pièce aussi que je fais avec des jambes. Alors pour le coup, les jambes sont plus comme les cailloux, ce sont des jambes molles. D'accord. Les cailloux ont des jambes, on va dire, un peu comme les humains. Et les œufs ont des jambes comme les humains, mais molles, un peu comme à la façon d'Ali. Les genoux sont arrondis Et voilà, il y a un côté un peu plus fantastique et surréaliste, on va dire, sur les œufs. Et ils sont en porcelaine ou en grès. Voilà. Mais c'est un long, long travail, puisque j'ai dû mettre au point le fait que j'ai eu énormément de déchets, puisque l'œuf se fissurait, puisqu'il est émaillé à l'intérieur et la terre est brute à l'extérieur. Donc ça crée énormément de tension. Et puis l'œuf est fin aux extrémités et très dense dans le fond. Donc ça, ça crée une double tension aussi. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, même si c'est difficile parfois. On a des rebuts assez importants. On peut jeter une cinquantaine de pièces et en garder que 10. Voilà, mais je continue. Je continue. Enfin là, j'ai quand même atteint une maîtrise qui me permet d'avoir des choses, comment dire, qui me permet d'avoir des espoirs d'avoir des prix moins chers, puisque donc les pièces sont viables, j'acquiers une rapidité.
Vous avez essayé l'œuf dans le vinaigre ?
Non, j'ai pas essayé, mais j'ai essayé quand j'étais enfant.
Et c'est vrai ?
Mais c'est vrai, tout à fait. Et ma fille m'a fait une blague d'ailleurs de magicien comme ça, en prenant un œuf et en le faisant tombé, je crois, je ne sais plus ce qu'elle m'avait fait. Non, elle m'avait mis un œuf sur le coquetier et c'était le matin. Elle m'avait dit, tiens maman, je t'ai préparé un œuf à la coque. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'évidemment, en fait, il est gonflé. En fait, quand il est mis dans le vinaigre, il n'a pas la même allure. Et bon, c'était rigolo, j'ai fait semblant que j'y croyais, quoi. Et j'ai cassé avec la coquille, j'ai appuyé dessus avec une cuillère. Je me suis dit, il ne se casse pas cet œuf. Et donc elle rigolait, puis voilà, c'est comme ça qu'on a vu que donc ça ramollit vraiment, ça fait comme un petit ballon. Voilà, si vous trempez un œuf dans le vinaigre, ça vous fait un œuf ballon.
Et cette matière, elle devient incontrôlable, en quelque sorte.
Alors après,
elle ne rattrape pas sa dureté ensuite.
Non, après ça pourrit très vite et ça sent pas très bon d'ailleurs. Voilà. Ça se met même pas dans le compost parce que à cause du vinaigre, mais voilà, c'est juste pour la blague, quoi.
Et alors pour les œufs, pareil, vous utilisez le moulage pour les recomposer ?
Oui, alors au début j'avais utilisé un moulage d'œufs d'autruche et puis en fait c'était trop aléatoire parce qu'évidemment un œuf d'autruche c'est pas si parfait que ça. Et je me suis finalement fabriqué des formes et j'ai fabriqué moi-même mes gabarits en plâtre.
Avec leur aspérité de la coquille d'autruche.
Alors l'aspérité, c'est après à l'éponge, c'est avec des outils. C'est une fois que l'œuf est, la pratique s'appelle l'estampage en fait. Voilà, comme la pratique de la reproduction de mes cailloux et de mes poissons, puisque je me sers de moules à pièces que je fabrique moi-même. Donc j'estampe la terre, je la calibre et j'interviens après, une fois que l'œuf est fabriqué, je reviens retirer encore de la terre pour affiner la pièce, surtout sur les bords. Je parle des bords des œufs en fait.
Quelle était votre formation artistique ?
Alors j'ai plusieurs formations. Notamment, j'ai commencé par l'écriture. Moi, j'ai suivi 3 ans d'écriture aux ateliers, aux ateliers de Claude Lemel, qui est aujourd'hui un monsieur très important à la SACEM et qui à l'époque était encore parolier de monsieur Reggiani. Et puis ensuite, parallèlement, j'étais aux ateliers de la mairie de Paris. Je suivais des cours de modelage. Donc là, j'avais 18-20 ans. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants, donc dans l'animation. Et puis, à 30 ans, j'ai entamé une formation en art appliqué et notamment de décor peint. Donc c'est ce qui m'a poussée aussi vers la patine aujourd'hui. C'est ce qui fait que mes cailloux sont patinés à la façon un peu faussaire, puisque la terre, elle est brute. Hein, et après, je m'amuse à reproduire des œufs, pareil, des faux œufs. J'aime assez ce côté faussaire, tricher un petit peu avec la nature. Et puis, en même temps, lui rendre hommage, en fait. Voilà, c'est un peu... L'un va pas sans l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours la nature qui m'inspire, et ensuite il y a un petit peu d'humour, puisque je fais des œufs bleus, jaunes. Enfin, je peux aussi aller vers des textures et des choses qui moi m'amusent, quoi. Pareil pour les cailloux, j'en fais des rouges, ils existent, hein, mais je m'amuse quand même à faire des teintes qui aussi me font m'amuser, qui m'amusent au niveau du regard, qui font que mes yeux tout d'un coup vont vers autre chose, d'autres supports, d'autres couleurs, voilà. C'est la dernière formation que j'ai faite. Après, évidemment, infographie, Photoshop, tout ce qui m'a permis de travailler mes photos. Et puis après, en film d'animation, évidemment, avec l'équipé.
Est-ce qu'on peut voir votre travail sur Internet, par exemple ?
Alors, j'ai un blog. Vous faites Malifance. Alors attention, mon nom est Marie-France, mon prénom c'est Marie-France Guarneri, mais Malifance est mon pseudonyme. Alors c'est comme ça que m'appelait ma petite sœur, puisque les R sont difficiles à dire quand on est enfant. Donc ne mettez pas de R après le F, c'est bien Malifance. Je l'ai choisi justement en hommage à ma tribu, parce que les premières personnes avec qui on s'amuse, c'est ses frères et sœurs. C'est vraiment aussi avec eux que j'ai grandi. Même si on est très un peu loin et très différents l'un de l'autre, et on dit souvent on ne choisit pas sa famille, je suis contente d'avoir grandi auprès d'eux et de m'être amusée avec mes frères et sœurs. On est très proches, hein, on est nés entre 65 et 71, on est quatre enfants. Mon imaginaire vient aussi de ce noyau-là. C'est-à-dire qu'on est tous des individus différents, avec des personnalités différentes, et chacun se répondait par rapport aux blagues de l'autre. Donc, il y a une maman qui a perdu son petit garçon, qui a eu peur, et ça y est, elle l'a retrouvé. Donc, ça c'est important, les amis, les frères et sœurs quand on est enfant. Pour en revenir à votre question qui était, j'ai perdu le fil.
Sur les visibilités de votre travail.
Oui, alors il y a donc un site blog, on va dire un blog. Donc vous faites Malifance, Atelier ici la Terre. Et puis si vous ne trouvez pas, vous faites donc Marie-France Guarneri, donc Guarneri, .blogspot.fr. Voilà. Et puis aussi aux ateliers d'art de France, vous avez aussi la possibilité de me retrouver.
Il y a possibilité d'aller vous voir à votre atelier aussi ?
Oui, tout à fait. Bon, sur mon blog, vous avez toutes les coordonnées. Et puis, vous faites malifrance@gmail.com. Et là, je vous envoie toutes mes coordonnées. Et vous avez la possibilité de me rencontrer. Je fais visiter mon atelier tout l'été. Sauf le week-end du 15 août, où je suis sur le marché de Potier de Valoris. Voilà.
Eh bien, Malifance, merci de nous avoir parlé. Et puis, bonne saison.
Merci à vous aussi de votre accueil. Merci pour vos questions. Et puis, je souhaite un bel été à tout le monde, entre amis et en famille. Au revoir.
Interview.
Au revoir.
Interview.
Okay. Bye-bye.